C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans la première édition de Radio Foot International sur RFI, comme chaque après-midi. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous nous retrouverons dans la soirée après les matchs de Ligue des Champions. Une nouvelle soirée, match retour, quart de finale avec les Citizens demi-finalistes de la Ligue des Champions. Enfin peut-être, les propriétaires du club en rêvent bien sûr, mais Pep Guardiola reste les pieds sur terre, sachant que son équipe, battue à Londres au match aller, est en danger face à Tottenham. Les Spurs sont irréguliers cette saison, mais pourraient encore surprendre. Hugo Lloris pourrait même être l'homme important de Tottenham comme à l'aller. Les Reds à Porto pour confirmer leur grande forme en Ligue des Champions comme en Première Ligue. Liverpool favori de ce quart de finale retour. Mais qui devra se méfier quand même des Dragons et de leur buteur malien Moussa Marega, soutenu par tout un stade qui joue bien son rôle de 12e homme. Mais deux buts de retard face au trio Mané, Firmino, Salah, ça sera quand même dur. L'Ajax au sommet de son art, tout comme Lionel Messi d'ailleurs. Les prodiges d'Amsterdam ont lessivé la Juventus de Turin hier, emporté par cet élan de jeunesse et de talent que montrent à chaque match les joueurs d'Erik ten Hag. Jusqu'où iront-ils ? Qui les arrêtera ces jeunes ? Le grand jour est-il arrivé pour le PSG? Avec des seconds couteaux au stade de la Beaujoire, les Parisiens doivent gagner à Nantes pour remporter leur titre. L'échéance sera-t-elle une nouvelle fois retardée ou pas? Eh bien, nous le saurons avec Martin Guez qui se trouve au stade de la Beaujoire. Pour l'instant, ici, dans notre studio, il y a Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Heureuse de vous retrouver.
Je suis ravie d'être là avec vous, Annie.
Ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas croisés finalement dans ce studio, mais bon, on a tous.
Ça bouge à la fille. Hein,
vous n'étiez pas au pied des pyramides avec nous.
J'ai pas eu cette chance, mais je vous ai dit, écoutez.
Hein, vous auriez dû venir nous rejoindre sur un tapis volant. Salim Bongali de RMC Sport, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue Salim. Nous attendons Frédéric Piquionne. Pour l'instant, Radio Foot, c'est parti. Give it to me, one time. Give it to me, two time. Give it to me, three time. Yeah. Give it to me, four time. Ce but de Son avait infligé aux Citizens l'une des rares défaites de cette saison. C'était à Londres, dans le stade tout neuf des Spurs, qui l'ont donc inauguré de belle manière sur la scène européenne et qui leur donne eh bien, envie d'y croire, eux qui n'ont jamais, dans cette compétition reformulée, dépassé le stade des quarts de finale. Mais Pep Guardiola, qui n'a plus gagné, lui, de Ligue des Champions depuis 2011, et c'était avec le Barça et c'était avec Messi, eh bien, il compte sur son groupe, ce groupe qu'il peaufine pour aller enfin jusqu'en finale et donc l'emporter ce soir.
J'ai le rêve, l'espoir d'aller en demi-finale. Mais d'abord, je veux que nous fassions un bon match. Donc je sais combien les joueurs sont concentrés, combien ils veulent aller en demi et réaliser cette grande performance pour nos supporters, donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le moment de montrer combien nous avons progressé depuis 5, 7, 8 ans. J'aime ce genre de situation. Quand nous sommes menés et que cela s'annonce dur et que nous devons préparer ce match pour nous battre, j'aime vraiment ça.
And I love that. En rêver sans occulter la difficulté, nous dit Pep Guardiola, mais les Citizens sont-ils en danger? Salim, est-ce que il y a un vrai suspense pour vous autour de ce match?
Ah oui, surtout après le match aller, parce que
au 1-0, match aller, on le rappelle, hein.
1-0 avec donc, vous l'avez dit, ce but de Minson, mais surtout, on a vu une équipe de City qui forcément avait cette possession de balle, comme d'habitude, évidemment, mais au final, une possession neutre. peu d'opportunités. Alors, il y a eu ce penalty avec l'arrêt de Loris, on en évoquera le gardien français dans un instant. Mais à côté de ça, je ne me souviens pas d'une parade phénoménale de Loris, d'un moment où on s'est dit, City est en train de pousser cette défense, est en train de martyriser cette défense. Non. Tottenham a été en bloc, a été cohérent dans son jeu, et au final, Tottenham a été simple, efficace, et a donc, je vais pas dire logiquement, en tout cas, c'était assez équilibré. Donc, c'est ça qui m'a surpris de voir Tottenham au même niveau que City.
Déjà, ça, c'est impressionnant. Que City ne marquait pas.
Marquait pas, encore une fois, peu d'opportunités pour City. Donc, et on l'évoquera à l'Ajax dans quelques minutes. Hier, l'Ajax, c'est au final, peut-être qu'on ne débattra pas une si grande surprise que ça. Si Tottenham passe ce soir, ce serait pas une monstrueuse surprise non plus, car encore une fois, il y a la cohérence dans cette équipe de Tottenham, et la cohérence, ça peut vous permettre d'aller loin dans une compétition.
Marc, ils sont en danger pour vous, les Citizens?
S'ils reproduisent le même match qu'à l'aller, ça, c'est vraiment, c'est sûr. Ce qui est assez surprenant sur l'aller, c'est qu'on a une équipe de City qui gère tranquillement. J'ai envie de dire que sur ce match-là, on se dit, ils savent qu'il y a un match retour, donc on va gérer. Bon, finalement, on prend ce but. Ah ben, c'est un peu bête parce que le choix de mettre deux défensifs, Gundogan et Fernandinho, ce qu'on voit pas souvent, ils ont pris l'eau au milieu de terrain, ce qui n'était pas forcément le cas. Alors oui, c'est sûr qu'ils ont la possession, mais comme l'a dit Samy, c'était stérile, ça n'avance pas, ça ne servait à rien. Donc ils ont été dans la gestion pure et dure.
Oui.
J'espère maintenant que cette équipe-là de City, sûrement ce soir, va jouer à un défensif et va jouer un petit peu plus haut et à trois devant.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est pas possible de mettre David Silva en meneur de jeu, parce que ça soit Wanyama, que ça soit Dele Alli qui s'est occupé de lui, on l'a pas vu. Donc là, j'attends une autre réaction, et à mon avis, son plan, il va marcher ce soir. Mais ça va être dur.
C'est aussi ça, c'est que, bizarrement, Pep Guardiola avait tenté une chose, c'est au final, une équipe, alors je vais pas dire A', mais une équipe, pas totalement l'équipe A habituelle de la part de Manchester City. Il s'était dit, je peux me permettre de faire légèrement tourner, et au final son plan
incroyable,
a totalement
légèrement tourné en quart de finale de Ligue des Champions.
Exactement.
Il avait, et en plus presque, à l'extérieur.
Exactement, il avait presque privilégié le championnat. Alors pour moi c'était une grossière erreur.
Sam, je pense vraiment qu'il pense au second match. Il dit au second match parce que son coup il est pas loin de marcher puisqu'il prend ce but à la 80-78.
Oui,
donc il se dit, je suis peinard. Et ben finalement ce but arrive. Bon ok. Et à la fin du match il dit quand même, je me rappelle, non mais c'est pas mal. Je suis assez fier de mes joueurs. Ça s'est bien passé. C'est l'une heure parce que c'est City, enfin, c'est une machine capable de faire la différence. Des joueurs étaient sur le banc très importants.
Ouais.
Donc je pense que ce soir il va faire un coup.
Frédéric Piquionne, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous voyez les Citizens être mis véritablement en danger ce soir sur leur propre pelouse? Il faut qu'ils marquent deux buts.
Bah, le problème c'est on a tous vu le match de Tottenham à l'extérieur aussi à Dortmund.
Mm-hmm.
Ils ont fait un super match, ils ont été solides, ils ont été conquérants, et c'est ce qu'ils vont essayer de reproduire aussi. Ils savent que la première ligue pour eux c'est terminé, donc la Ligue des Champions c'est un objectif prioritaire.
Bien sûr.
Maintenant Manchester City
c'est toujours une inconnue parce que ils sont allés ces derniers temps une seule fois en demi-finale, sinon une seule fois hein. Et en plus ils n'ont jamais disputé de finale, on sait que c'est le rêve du club, des propriétaires et tout. Et en même temps, parfois on se demande si le jeu de Pep Guardiola n'est pas trop beau pour fonctionner.
Ouais, mais on ne sait pas si vraiment c'est l'objectif numéro un des propriétaires. Du moins de Pep Guardiola,
c'est
ce qu'il dit aujourd'hui, que vraiment c'est la première ligue qui prime pour lui.
Pour ça, quand même.
Mais après, voilà, c'est quand même quelque chose. Je pense que dans le coin de sa tête, c'est un objectif qui devrait réaliser normalement.
Oui, il y a un discours effectivement de façade de dire la première ligue, le plus beau championnat du monde. Ok. Sauf que d'une part, que ce soit les dirigeants, les propriétaires, quand ils ont acheté le club à l'époque, donc c'était un club qui végétait en bas de tableau, ils l'ont fait monter, ils ont gagné la première ligue deux fois effectivement. Désormais, après avoir dépensé plus d'1 milliard d'euros, vous êtes pas là pour continuer de gagner la première ligue. Même si c'est le plus grand championnat du monde, vous êtes là pour montrer que vous êtes la meilleure équipe d'Europe, donc gagner la Ligue des Champions. Et puis Pep Guardiola, il l'a fait avec le Barça, il n'a pas réussi à le faire avec le Bayern. Il est aussi en mission, lui, pour montrer que moi, comme José Mourinho, vous savez, on a souvent opposé les deux,
bien
comme
sûr,
d'autres entraîneurs, je peux aussi gagner la Ligue des Champions avec un autre club. Ancelotti l'a fait, Mourinho l'a fait, et d'autres, moi aussi, je peux le faire. Guardiola, il a cette mission-là aussi, au final.
Il a un ego.
Effectivement, en plus, il y a quelque chose pour cette équipe. Peut-être, elle pourrait gagner 4 titres cette année. Elle est encore en compétition pour tout, et ça, c'est rare quand même, Marc. Donc, c'est d'autant plus.
En Angleterre.
Voilà, d'autant plus marquer les esprits.
Ah, c'est clair, ils sont. Mais après, maintenant, il faut. C'est échéance par échéance. C'est possible. Mm-hmm. Le championnat, c'est pas forcément fait. Ils sont peut-être en bonne position, mais ils devront rien lâcher jusqu'au bout. Il y a aucun relâchement possible des deux côtés, parce qu'avec Liverpool, tout le monde se tire la bourre.
Mm-hmm.
Donc, ça va être très compliqué.
Chaque
mais le challenge, il est quand même magnifique. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'on peut se dire, oui, je peux me permettre en Ligue des Champions de faire un petit turnover car je sais que j'ai un retour chez moi qui va être très important.
Juste précision, vous évoquez quadruplé. Pep Guardiola en a parlé en conférence de presse il y a quelques semaines. Lui, il disait pas quadruplé, il disait quintuplé. Parce qu'il y a le Community Shield qui a été gagné en début de saison.
C'est vrai.
Comme quoi, vous savez, toujours l'appétence de gagner des titres,
ça etc. Ça intéresse personne, mais finalement, quand on a accumulé les titres, finalement, il y en a 5.
Peut-être que Paris Saint-Germain en aura 3 cette année.
C'est ça, exactement. Et pour également rebondir sur les propos de Frédéric, il évoquait le match face à Dortmund il y a quelques semaines de Tottenham en 8e de finale retour. Dans ce match-là, notamment au retour, Tottenham avait quand même fait le dos rond et avait réussi à tenir avec Alexandre Golori justement et avait joué en contre. Et c'est là où.
Mais on va y venir sur Tottenham. Encore un petit mot peut-être, Frédéric Piquion, sur les atouts quand même de Pep Guardiola. Alors il y a son système de jeu, on le connaît ou on commence à le connaître bien, mais il y a aussi certains joueurs. Kevin De Bruyne est là, il est bien revenu parce que ces derniers temps il avait été absent, blessé. On a le Leroy Sané, bien sûr. Lesquels pour vous, Bernardo Silva, peuvent faire prendre le match de manière à le faire basculer?
Bah pour moi, si on a un grand, c'est le milieu de terrain, tout simplement. Mmh. Si le milieu de terrain ce soir est en forme et qu'ils arrivent à récupérer le maximum de ballons, je pense que c'est vraiment la clé. Et ensuite, c'est aussi les joueurs de côté, que ça soit Sterling, que ça soit Leroy Sané. Je pense que ce sont des joueurs qui doivent faire la différence. Le 1 contre 1, c'est le jeu de City de passer sur les côtés. Et à partir de là, s'ils arrivent à passer sur les côtés et à faire leur jeu en faisant leur petit centre en retrait, leur centre devant le but, bah Agüero sera là pour mettre au fond.
On parle beaucoup de Dortmund, mais Harry Kane n'est pas là, quoi. C'est-à-dire que ça va changer un petit peu la donne. Llorente est un joueur beaucoup plus physique, qui fait sûrement peut-être un petit peu moins d'efforts, qui a moins de coffres pour aller faire les efforts comme il a pu le faire à Dortmund où il a fait beaucoup de courses. Donc attention, c'est un petit peu différent, mais un Lucas qui est en feu en tout cas.
Justement, et vous voulez en parler des Spurs, alors on y va. On croyait surtout, on va y venir à leur parcours parce qu'on se souvient face à l'Inter Milan, on pensait qu'ils sortiraient pas de cette poule qui était compliquée. Finalement, ils ont réussi, ils passent aussi plutôt bien Dortmund, alors que Dortmund de Lucien Favre pouvait être un peu un épouvantail. Et puis, ils peuvent aussi compter sur quelqu'un, Hugo Lloris, le gardien, le capitaine, et qui l'autre fois, s'est fait remarquer en arrêtant un pénalty. Ça commence à être une spécialité chez lui.
It's going to be a different game.
Ce sera un match différent que celui de l'aller. On a un petit avantage, mais tout peut très vite changer. C'est important de venir ici avec de l'ambition et de rester fidèle à nos principes de jeu. Si nous venons ici avec le désir de marquer des buts, cela rendra le match encore plus difficile pour Manchester City. On sait que ce sera difficile et que l'on va souffrir, mais c'est important d'être prêt à ne pas faire que défendre. Il faut garder intact toute notre ambition.
Frédéric Piquion, c'était un peu le côté négatif, un peu son boulet des fois à Hugo Lloris, le grand gardien, un des meilleurs de la Coupe du Monde, on s'en souvient. C'était de ne pas arrêter des pénaltys. En 2019, il n'en laisse plus passer. 3 sur 3.
Bah oui, 3 sur 3 en 2019. Après, pour avoir joué avec lui, je me souviens pas aux Allées Lyonnaises, il avait arrêté un pénalty, effectivement. Mais Hugo, oui, c'est peut-être une spécialité qui va mettre en place, puisque aujourd'hui, il peut faire partie, en tout cas, il fait partie des meilleurs gardiens d'Europe et il joue dans une équipe qui fait partie aussi des meilleurs d'Europe. Donc, effectivement, je pense qu'il a progressé là-dessus. Après, je sais pas s'il était vraiment très bien tiré le penalty d'Agüero, parce que je pense qu'il a.
Il y a toujours les deux choses. Hein.
Avec son corps, en tout cas, l'orientation de ses épaules, j'ai l'impression que Hugo a bien lu. Le penalty et a fait un super barré.
C'est pas la première fois d'ailleurs que Agüero en loupe, hein, n'est-ce pas?
Exactement, c'est vrai déjà que l'Argentin effectivement est en échec. Et aussi, en fait, sur RMC Sport, on avait étudié les 3 pénaltys justement que vous avez évoqué, Frédéric, qui ont été arrêtés en 2019. Et on voyait un truc et on comparait par rapport aux autres pénaltys qui ont été concédés ces dernières années par Hugo Lloris. Il y avait une petite différence. Alors, est-ce qu'elle compte ou pas? Il part plus tard sur les 3 derniers pénaltys. Il arrive à partir vraiment au dernier moment et entre guillemets à sentir ou vraiment où la balle va potentiellement partir, que ce soit avec la lecture des épaules ou la lecture du pied. Donc, il va vraiment au dernier moment. Est-ce que donc ça a changé dans sa manière de percevoir, de s'entraîner à travers les pénaltys? Peut-être. En tout cas, sur les 3 derniers pénaltys, il part plus tard et donc il arrive à les arrêter.
Ce qui est fou, le parallèle dans le football est énorme parce qu'il y a encore Allez, avant ce pénalty, encore 10-15 jours auparavant, ouais, on le critiquait parce qu'il faisait, c'était Monsieur Boulette.
Tout à fait.
Non, mais c'est quand même énormissime. Le football,
comme quoi, le football va à une vitesse.
C'est énorme. Là, c'était le petit parallèle.
Le meilleur gardien du monde, et là, tout d'un coup. Et,
hein. Ah, mais De Gea, pour moi, c'est une référence. Hier soir, il fait une boulette, tout le monde l'a tué. Donc, bon, voilà.
Ouais, il en a pas fait une et demie, pratiquement, on pourrait dire. On y reviendra.
Une petite.
On y viendra. En tout cas, c'est Spurs. C'est vrai que cette saison, Marc, ils sont un peu surprenants. Ils sont presque là où on les attend pas, et donc les voilà en quart de finale et dans une position favorable. Alors, certes, avoir arrêté ce penalty, c'est plus que symbolique parce qu'ils n'ont encaissé aucun but et finalement ça oblige Manchester City à marquer deux fois chez eux. Mais est-ce qu'on peut s'attendre aussi à, parce qu'il n'y a pas Harry Kane ce soir, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que ça change tout? Alors on a Son, on a Llorente, on a Lucas qui rentre bien dans l'effectif.
Qui est bien rentré dans l'effectif. Après je pense que cette équipe elle a énormément de cœur, elle a fait preuve sur le match aller, je pense, de pas de méchanceté, mais beaucoup plus d'expérience, d'aller leur faire mal dans des zones où on pensait pas que Tottenham est une équipe un petit peu lisse qu'on adore, quoi. Et puis finalement sur ce match-là on s'est rendu compte que Sissoko a été gigantesque, mm-hmm. il a perdu très peu de ballons, il est sorti au duel, Wijnaldum aussi. Enfin cette équipe-là elle m'a bluffé lors de ce match-là et on se dit c'est dommage qu'elle est pas capable de faire ça en première ligue, parce que des fois en première ligue elle est capable d'être trop gentille ou trop lisse ou trop un peu trop, et à l'arrivée là je trouve qu'ils ont été très très bons, mais j'ai bien peur que 1-0 ça ne suffit pas.
Et en même temps ils sont quand même troisième en ce moment de cette première ligue, hein. On sait que c'est un jeu de tiroir en ce moment, ah, absolument
ça
incroyable
va vite devant, hein,
entre la troisième et la sixième place, c'est mais ça. Là ils sont revenus sur le podium.
Exactement, en rappelant que les 3 et 4e places sont directement qualificatives aussi pour la prochaine Champions League. Et c'est vrai qu'ils sont bien placés pour
la
le coup. En plus,
ils ont
un calendrier qui est très favorable pour réussir à se qualifier prochainement, surtout que les autres vont se tirer la bourre. Il y a United, Chelsea notamment à venir prochainement. Mais c'est vrai que Tottenham revient bien en championnat, en Ligue des Champions aussi. Défensivement, surtout, c'est là où on est un peu surpris parce qu'on se basait sur une attaque avec Harry Kane notamment et d'autres qui flambaient. Au final, Harry Kane, alors il a été un peu blessé, mais il est revenu, il commence à marquer, mais au final, Heung-min Son, lui, ne marquait plus, Dele Alli ne marquait plat et au final fait une saison assez neutre lui aussi. Ouais. Et au final c'est la défense qui répond présent. On a évoqué le cas Hugo Lloris, mais même Vertonghen, Alderweireld qu'on a parfois critiqué répondent présent aussi. Donc c'est défensivement au final cette équipe de Tottenham surprend.
Et puis on a l'impression que Mauricio Pochettino, alors acquis évidemment dans son club ou d'autres lui reprochent de n'avoir encore rien gagné, mais en tout cas il arrive toujours à porter cette équipe au plus haut de cet effectif là peut-être, Frédéric.
Après il a quand même des références, hein.
Oui oui, bien sûr, il vient pas de nulle part, mais
oui, j'aime bien son système de jeu, j'aime bien ce qu'il retransmet aussi à son équipe, toute cette psychologie mentale qui donne à ses joueurs, et il le rend super bien sur le terrain, parce qu'on voit finalement que même un Lucas qui a pas énormément joué et qui est remplaçant, et là il lui redonne sur le terrain, il a mis un triplé encore ce week-end. Je pense à un Serge Aurier aussi qui peut rentrer, je pense à Rose aussi au début de saison qui jouait pas et qui est aujourd'hui est titulaire. Non, il y a plein de joueurs comme ça qui finalement dans l'effectif reviennent très fort, et je pense que Pochettino a quand même une grosse part de responsabilité par rapport à ça.
Responsabilité de la part de l'Argentin, c'est vrai. Après, attention quand même à Tottenham qui cette année a été le seul club en Europe à ne pas recruter un joueur, mm-hmm. que ce soit l'été dernier ou cet hiver, c'est le seul. Donc vous vous basez sur un effectif, et là vous avez été joueurs tous les deux, messieurs, vous allez pouvoir me le confirmer. Donc vous avez forcément des manières, vous connaissez l'autre sur le terrain, donc
les automatismes.
Il y a les automatismes et tout, mais ces automatismes-là, il faut les transmettre et les retranscrire sur le terrain. De vous gagner, c'est bien, mais à un moment donné, il faut soulever des trophées aussi. Si vous faites une saison sans changer le groupe et qu'au final, vous gagnez rien, ben, à un moment donné, on va se dire, ouais, c'est bien, Pochettino, t'as plutôt bien joué, t'as été pas trop mal, mais bon, au final, t'es que troisième, au final, t'as été éliminé en quart, au final, t'as même pas été loin en cup, au final, t'as rien gagné en Coupe de la Ligue. Donc, on va lui dire ça, on va pas lui dire, ah, t'as bien joué, t'as été en quart. On va pas lui dire, ah, t'as été troisième. On va lui dire, t'as rien gagné.
Donc, il joue gros.
Ouais, il joue gros, c'est vrai. Et j'aime bien un petit peu ce que Salim dit. C'est la vérité. Quand on est dans un groupe, on a envie de gagner des choses. Nous, à Portsmouth, malheureusement, on était dans les derniers, mais on avait un effectif où on était tellement mal.
C'était pas un effectif de dernier pour le coup. Hein,
ouais, on a été en finale de cup quand même. On a failli souvenir un trophée. Donc, effectivement, avec cette équipe, je sais qu'en tout cas, il a envie de gagner quelque chose. Après, est-ce que c'est le fait d'avoir joué? Ne pas avoir joué justement dans leur stade, qu'ils n'ont pas pu avoir les points escomptés, notamment à Wembley, où peut-être c'était pas leur terrain, ils ont perdu beaucoup beaucoup de points aussi là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui ils vont arriver à gagner cette Champions League? J'ai quand même un gros doute.
Marc.
Non, après, la lassitude des joueurs, c'est de se dire, finalement, j'arrive à rien gagner ici, je vais aller voir ailleurs. C'est ça le truc. C'est le dénominateur. Il est là, oui, c'est bien. Je les adore, je me régale avec eux. Ça fait 3 ans, 4 ans que je suis là. Ben, je remporte rien, donc je vais essayer d'aller remporter quelque chose ailleurs parce que la lassitude, elle sera juste là.
Malheureusement, il y a beaucoup d'équipes dans ce style.
Il y en a beaucoup. Énormément.
Je pense que t'as eu en France.
beaucoup.
Ne déflorez pas les sujets du jour.
Salut.
On continue et on va prendre la direction vers l'Atlantique, la direction de l'ouest de l'Europe. Des dragons, ça chante aussi sur les bords du fleuve Douro, au nord de Lisbonne. Donc, les Reds iront d'ailleurs là-bas chercher leur qualification dans ce bouillonnant stade qui assume si souvent son rôle de 12e homme. L'FC Porto a perdu 2-0 à Anfield la semaine dernière. Mais les hommes de Sergio Conceição devront cracher le feu s'ils veulent, dominer les Reds qui sont en face. Liverpool qui vient avec son effectif au complet et sa vedette qui a brillé au cours du week-end face à Chelsea. Faisant perdre leur latin aux commentateurs.
Salah! Oh wow! Oh! That is beyond special! Mohamed Salah! Mohamed Salah!
Salah's gonna have a go!
Absolutely sensational for Mohamed Salah!
Mo Salah, égyptien pharaon, n'est-ce pas? Le pharaon égyptien, on l'a constaté la semaine dernière en assistant à ce match dans une rue du Caire, dans un petit café avec plein d'Égyptiens autour qui évidemment vibraient à chaque geste de Mohamed Salah. Les Reds sont-ils finalement invincibles ce soir selon vous, Frédéric?
Bah, favoris forcément, quand on mène 2-0... Quand on mène 2-0 sur un match aller,
on a l'impression qu'ils se sont surtout améliorés sur les matchs retour. Disputés loin de leur stade.
Bah, c'est une équipe qui joue, on va pas dire qui a la possession, même s'ils peuvent l'avoir, mais je pense que c'est une équipe qui aime bien jouer en contre. Et quand on a trois phénomènes devant qui vont vite. Et surtout un mec comme Firmino qui arrive à libérer des espaces et qui surtout revient chercher les ballons et après arrive à les distribuer à Mané ou Salah.
Et Marc aussi de temps en temps.
mais c'est vrai que c'est un joueur qui fait jouer les autres et si les deux devant ils recommencent à marquer parce que Mo Salah ça fait 2 ou 3 semaines qu'il recommence à marquer peu à tous les matchs et quand t'as un Mané aussi de l'autre côté qui est en feu. Les dragons, ils peuvent avoir... peut-être qu'ils vont peut-être pas cracher du feu ce soir.
Mais c'est vrai, pour compléter les propos de Frédéric, c'est vrai qu'en début de saison, on s'inquiétait sur Liverpool. Déjà en fin de saison dernière et même cette saison, à l'extérieur en Ligue des Champions, ça gagnait pas du tout. Ça perdait, que ce soit au PSG, à Naples, même à Belgrade, ils ont perdu.
Mais oui, les matchs de poule, ils perdent tous les matchs à l'extérieur.
Donc après, ils réagissent et ils réalisent cette performance remarquable à Munich. Pour le coup, il y avait une équipe et l'autre qui à peine réalisait des petites choses. Donc c'est vrai que là, tout d'un coup, on commence à se dire, si ça commence maintenant à gagner à l'extérieur. Et en plus, en première ligue, ils se sont bel et bien relancés. Et là, ils sont plus que jamais dans la course. Des joueurs qui se sont réveillés, c'est vrai qu'on se dit et l'année dernière, n'oublions pas ce fameux 5-0 de Liverpool sur la pelouse de Porto qui avait aussi marqué les esprits.
Exactement.
C'était en 8e de finale à l'époque.
Oui. Marc, alors cette équipe de Porto entraînée par Sergio Conceição, qu'on l'a connu à Nantes effectivement, qui a été championne l'année dernière du Portugal, elle compte dans ses rangs un joueur qui est devenu le chouchou du stade, c'est l'international malien Moussa Marega qui a marqué déjà 6 buts en Ligue des Champions.
Ce qui est fou, c'est que le week-end, il y a 15 jours, la semaine dernière, il peut en marquer 3.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a, je crois, 4 duels, dont 2, Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est allez, on peut en rater un, deux, et c'est vrai que c'est un jeune joueur qui est passé par Paris, je crois, le quartier de...
Oui, les Ulysses.
Les Ulysses.
Les Franciliens.
Et on peut se poser les questions, mais quel gâchis, parce que au vu du match du Liverpool, 2-0, on a quand même vu 3-4 occasions.
On sait surtout qu'en Ligue des Champions...
Et malheureusement, à ce niveau-là, alors peut-être que ça peut se reproduire ce soir, et qu'il peut y avoir une autre issue. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de regrets, c'est une valeur sûre, il est en train de briller, il flambe énormément, mais sur ce match aller, je pense qu'on sait que Sao peut lui en vouloir et toutes ses coquilles, parce que malheureusement, les occasions, et c'est des belles occasions, on fait pas semblant là. Donc peut-être que ce soir, moi je pense que ça va être très très dur pour Liverpool, parce que je les vois pas attaquer comme des fous, parce que je pense que Porto, dans son stade, avec cette ambiance-là, alors Liverpool est habitué, bien sûr, dans son stade, mais ça va pas être facile.
Après, Liverpool ne sait pas gérer un résultat. Ils ont jamais réussi à le faire.
C'est un peu comme l'Ajax, n'est-ce pas?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Ça fait partie de ces équipes-là qui savent pas. Donc, je pense qu'effectivement, ils vont peut-être laisser un petit peu venir Porto, et en revanche, partir en contre. Ouais. Frédéric parlait de ces flèches-là. Quand vous avez les trois devant, quand vous avez des quarterbacks capables de leur donner la balle, après, ça va tout seul, ça peut aller très vite. Donc, ça peut jouer en contre, et ça, Liverpool sait le faire.
Porto récupère des joueurs d'expérience aussi, Pep qui est de retour. Enfin, il y a au milieu de terrain, je crois que Herrera qui est de retour, qui est de retour aussi. Donc ça va être difficile, mais quand on voit le match aller 2-0, on se dit ils s'en sortent bien parce qu'il aurait pu avoir 2-2, mais sans problème en plus, parce que Liverpool s'est créé beaucoup d'occasions. Casillas en face, qui connaît bien ce genre de match-là, les a sauvés aussi. Donc pour moi, ça va être très dur ce soir.
Mais Maria, vraiment c'est on évoque souvent les autres grands noms, les autres grands attaquants de européens, mais Maréga, c'est une machine.
C'est la révélation un peu du côté de Portugal.
On le compare à Hulk.
Oui, mais je reconnais autant sur le championnat portugais, j'avais pas de doute sur le fait qu'il marquerait beaucoup de buts et tout, mais en Ligue des Champions, qu'il réussisse à faire ce genre de performance, notamment encore une fois, il y a quelques semaines lorsqu'il se blesse, il doit revenir 2 mois après officiellement. Il revient moins d'un mois après, notamment lors d'un classico face à Benfica où il est phénoménal, malgré la défaite il est énorme. Quelques jours après il joue face à Rome où il est le meilleur joueur du match, il marque un but et Porto se qualifie. Enfin, en termes de physique, il se procure beaucoup de cases, oui il en rate, mais déjà il s'en procure des occasions, et de le voir comme ça réussir à s'arracher pour les avoir, il est phénoménal.
Je vais vous donner, moi j'ai une petite anecdote de Maréga, c'est qu'il travaille physiquement avec un ami à moi qui s'appelle Fabien Delporte, et c'est lui qui le prépare à chaque fois. Donc là bravo à lui, parce que effectivement c'est un athlète.
Ouais. Et en plus, on dit qu'il a trouvé en Sergio Conceição un peu l'entraîneur qui l'améliore et qui lui fait franchir un cap. Mais ce qui est important, effectivement, de respecter certains caps dans une carrière.
Mais c'est vrai, surtout Conceição, l'année dernière, lorsqu'il arrive à Porto, il y a certains joueurs qui sont un petit peu au placard. Ouais. Brahimi, Herrera, qui sont au placard, qui doivent partir. Herrera, qui avait été détesté par les supporters parce qu'il avait fait une erreur sur un match contre Benfica. Dites-vous, Conceição, il arrive, il lui donne le brassard. Ça veut dire quelque chose, quand même. Et donc, il le remet dedans, il marque des buts, donc tout d'un coup le public l'adore de nouveau. Maréga, qui était un peu discuté par les supporters, il lui redonne confiance, et vous l'avez dit, vous avez été attaquant messieurs, encore plus que moi. Et vous savez, quand on vous donne la confiance, c'est fini, vous arrivez à marquer 20-25 buts. Hein.
La confiance, eh bien, c'est ce dont tu auras besoin ce soir, cette équipe de Porto, pour essayer de défier les Reds et d'essayer de renverser une situation qui est quand même un peu acquise aux Reds. Mais évidemment, un match n'est jamais joué d'avance, et cette Ligue des Champions cette année nous réserve beaucoup de surprises. D'ailleurs, allons-y à cette surprise.
Attention, corner de shot.
La jeune garde de l'Ajax
pour le faire.
Continue d'être insolente. Et la vieille dame est tombée.
La jeunesse provocante qui se joue d'une vieille dame pourtant très respectable. Mais quand on est joueur de l'Ajax, on se moque de la hiérarchie, trop sûr de son style et de son football oublié et ressorti de la malle à souvenir de temps à autre. Et quand il revient, bien ce football nous enchante. C'est aussi un football qui gagne. Vous avez passé une bonne soirée en regardant ce match Juventus-Ajax, messieurs.
Ah, c'était beau. C'était beau. De toute façon, les deux matchs, on en parlera. Quand vous avez un génie d'un côté, vous avez envie de le regarder, le petit Argentin. Et puis d'autre côté, quand vous avez 11 joueurs comme ça, en fait, vous pouvez que vous régaler, en fait.
C'est incroyable, non, Frédéric, cette équipe qui donne le tourdis pratiquement à tous ses adversaires.
Bah, si on a vu le match du Real de Madrid, on a surtout à l'extérieur, c'est vraiment une équipe qui, on va dire, qui sait tout faire.
Et rien ne les paralyse, attaqué. On a l'impression qu'ils ont peur de rien.
Ben non, c'est ça, 24 ans de moyenne d'âge. C'est une équipe dans l'insouciance, qui, avec un jeune entraîneur aussi, mais qui sait où ils veulent aller. Après, on l'a vu il y a deux ans, oui, qu'ils ont été en finale de la Ligue Europa.
Fait,
donc ils se sont préparés un petit peu à tout ça.
Ils avaient été mauvais à l'époque face à United, on s'en rappelle, et ils ont évolué.
Exactement, ils ont évolué, ils ont appris de leurs erreurs. Cette année, je sais pas s'ils sont bien en championnat, mais en tout cas, ils sont toujours
en finale de la Coupe.
Ils sont en finale et ils sont en tête à tête avec le PSV pour aller au bout. Ils sont toujours en tête pour avoir.
Mais en tout cas, en Champions League, c'est vraiment une équipe qui fait plaisir à voir avec du beau jeu. Alors, on parlait du jeu de Barcelone ou de Manchester City, mais quand on les voit jouer, c'est du même acabit. Et en plus derrière, ça pousse encore. Donc,
Alejandro Valente, on en parlait ce matin, il disait c'est prime aussi au football d'attaque cette année. C'est ça qui est peut-être intéressant parce que on pense à Liverpool, on pense même à Manchester City. C'est moins dans le calcul et plus dans le plaisir, on va dire, de jouer et du spectacle.
Je pense qu'il faut même pas dire football d'attaque, c'est-à-dire que c'est un football de base de ce qu'on a connu, c'est-à-dire que ça relance de derrière, ça part des latéraux ou de l'axe et ça déroule, ça va jusqu'à devant comme si dans le tête, il y a eu des séquences de jeu, il y a quelqu'un qui a fait un montage sur Twitter énorme, il y a à peu près 3 minutes où il s'amuse, c'est-à-dire que ça ressort, ça décroche, ça passe dans le dos, mais c'est très impressionnant, c'est-à-dire que le football est très très facile et là on peut se dire mais c'est un jeu vidéo quoi. Non mais c'est pas un jeu vidéo, ce sont des gamins. Singraven là qui rentre à la place de Marzaoui, il était jamais rentré en Coupe d'Europe, le petit jeune qui rentre, je me rappelle plus du nom du jeune gamin qui rentre à la 80, jamais joué en Coupe d'Europe, jamais joué. Non mais c'est-à-dire que la philosophie, quand on a 8, 10, 12, 14, 16 ans, 18 ans, c'est la même. C'est-à-dire que tu rentres avec les grands, tu sais comment jouer. C'est-à-dire que quand on entend, au bout de 10 minutes, il y a un blessé important, le jeune Singraven qui rentre, on se dit, ça va être compliqué. Eric Dimeco dit, ça va pas être évident. Ah bon? On n'a même pas vu la différence. C'est-à-dire qu'ici, mais pourquoi? Parce que, mais il le travaille du matin au soir à l'entraînement. Et c'est quand il a 14, 15, 16 ans, c'est pareil. C'est les mêmes générations.
Mais on le travaille. Ça avant.
Oui, mais ça, c'est autre chose.
Avant,
exactement.
Mais je vais rappeler surtout deux choses. Effectivement, que ce soit à l'Ajax et Barcelone. D'ailleurs, on rapproche souvent les deux grâce à Johan Cruyff. C'est lui qui a instauré ça, notamment à Barcelone. Justement, toutes les générations, à partir donc des plus petites équipes, les U8, U10, etc. Tout travaille de la même manière. Donc, dans le même schéma, notamment le Barça et l'Ajax, c'est même avec le 4-3-3 en l'occurrence. Et ils le disent d'ailleurs lors des conférences, lors des réunions préparatoires. C'est pas grave si les petits, si vous perdez 6-0 aujourd'hui, c'est pas grave. On s'en fiche. C'est pas le score qui compte. Pour l'instant, c'est la manière dont vous allez transmettre les ballons. C'est la manière dont vous allez réfléchir. Et ça, quand vous arrivez à faire progresser ces gamins et qu'ils arrivent en équipe première, ils ont cette idée de jeu et au final ils arrivent à jouer de cette manière-là.
Eh bien, on va s'intéresser à leur entraîneur aussi, Erik ten Hag, justement cet homme qui mène ces gamins, dignes héritiers de Johan Cruyff. Il les mène donc en demi-finale et surtout au placard, les Bianconeri et leur star CR7. L'action de la Juventus de Turin ce matin a perdu 17%. Alors écoutons cet entraîneur, ancien milieu de terrain. Il a le crâne rasé, très brillant dans son costume. On le remarque sur le banc, cet entraîneur de l'Ajax.
Geweldige avond.
Je pense que ça a été une grande soirée pour l'Ajax et pour les joueurs. Une grande soirée aussi pour le football néerlandais. Nous avons éliminé un autre favori de la compétition. Nous avons cru en nous avant le match à cause de la façon dont la Juventus a joué au match aller. Nous pensions que si nous jouions courageusement et patiemment, c'était la clé du match. En première mi-temps, nous avons dû être patients. La Juventus a essayé de nous mettre la pression et nous avons dû garder la tête froide quand la Juve a essayé d'attaquer. Ce n'était pas facile de jouer sous cette pression et c'était un combat intense.
Cet entraîneur, il n'a jamais joué lui-même à l'Ajax. Il a joué dans d'autres clubs des Pays-Bas. Et en même temps, on a l'impression que il a carrément intégré ces données que sont celles du jeu.
C'est pour ça qu'ils l'ont pris.
Du jeu à l'Ajax.
Oui. Il
n'a pas fait jouer le Bayern, par exemple, de cette manière-là. Évidemment, c'est quand il est resté 2 ans là-bas.
Oui, mais s'ils l'ont pris, c'est que finalement, ils savent.
C'était compatible.
C'était compatible et à partir de là, je pense que toute l'institution Ajax, avec tous les joueurs qui sont revenus dans l'organigramme, ils se sont dit, cet entraîneur est pour nous le favori pour faire jouer notre équipe. Et c'est ce qui se passe.
Marc,
je pense que quand on doit être entraîneur de l'Ajax, c'est toute une philosophie de jeu. Mourinho, je pense qu'il peut pas aller à l'Ajax, il va tout casser,
ouais.
Il va tout mettre en l'air. Certains coachs
surtout ne jamais perdre cette philosophie, même si on a une demi-finale en jeu.
On a vu Overmars, on a vu des joueurs importants qui étaient là.
Van der Sar, c'est les
héritiers du temple. Ils sont là, donc on va prendre quelqu'un qui est en adéquation avec notre philosophie de jeu. On peut pas prendre une big star d'entraîneur qui va tout casser. C'est-à-dire que on va prendre un entraîneur qui est capable d'aller voir les 12, 14, 16, 18 pour les voir jouer et pour les voir évoluer. Donc aujourd'hui, alors c'est dur ce que je vais dire. Je vais pas dire qu'il est pas pour rien, mais tout le travail qui est fait en amont, c'est toute la formation qui a à mettre en avant. Et lui, il est juste en haut et il continue. Mais derrière lui, c'est pareil. Mais c'est ça que la plupart du football français n'a toujours pas compris. C'est ça qui est vraiment dommage. En tout cas, eux, ils l'ont compris. Et aujourd'hui, l'entraîneur, c'est l'élément parfait pour les mener au bout.
C'est là où on se dit qu'un entraîneur doit parfois aussi ne pas avoir un ego surdimensionné.
Bien sûr.
Eric Ten Hag, c'est semble-t-il pas quelqu'un. Alors, je le connais pas personnellement, mais il a pas forcément un ego comme d'autres pourraient en avoir. On connaît et on pense aux noms en question. Voilà. Mais c'est vrai que Ten Hag complète au final cette pyramide, entre guillemets, de l'Ajax. Et au final, il s'intègre parfaitement. C'est pas lui qui impose. C'est presque lui qui s'adapte et qui, ne fait que compléter.
La star, c'est le jeu de l'Ajax. On peut pas dire c'est le coach.
Exactement.
C'est lui. Là,
exactement.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Mais quel regard de voir jouer ces gamins. On dira pas c'est l'entraîneur, la tactique. Non, là, c'est l'Ajax, la star.
Après, Ten Hag, il faut pas oublier aussi que, aux Pays-Bas, en tant qu'entraîneur, il a eu des résultats. Lui qui a entraîné des petits, notamment Utrecht, il va en finale de coupe. C'est bête, mais quand vous avez le PSV, l'Ajax et le Feyenoord qui archi-dominent, d'être avec le petit Utrecht et arriver en finale de coupe des Pays-Bas, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez déjà des notions. Il a bien connu Pep Guardiola. Aussi, quand il était au Bayern, il a entraîné l'équipe réserve du Bayern. Donc, ça veut dire que vous avez forcément des notions tactiques. Qui peuvent aider aussi.
Et là, d'ailleurs, il fait confiance aux jeunes, très très jeunes, pour être même capitaine de Ligt. Il a 19 ans et c'est incroyable, il est le capitaine de cette équipe. Alors, il y avait ce beau match sur une chaîne, il y en avait une belle prestation de l'autre, plus déséquilibré, il faut le dire, mais le Barça a confirmé sa bonne forme. Et surtout, il y a Alex Ferguson qui était dans les tribunes, qui a vu un peu le délitement de Manchester United sous ses yeux. Ils ont perdu donc 3-0 ce match retour. Mais surtout, il a dit, Ferguson, pour moi, Lionel Messi est au sommet de son art. Marc Libra, 31 ans, on se dit bon, peut-être que au bout d'un moment, il va se fatiguer, son style va faire qu'il va être moins bon et tout. Et on a l'impression que Messi, plus le temps passe, est meilleur.
C'est très impressionnant encore hier soir sur le premier but. On pense que le ballon il va le perdre, qu'il va pas avoir le contre, qu'il va le rater. Il est trop court.
C'est vrai.
En fait, moi je regarde la télé, c'est pas possible, il va pas l'avoir. Puis, non, finalement, petite accélération, il a double accélération, le contre. Extérieur pied gauche, il enroule et c'est fini, on n'en parle plus. C'est je ne sais pas à quel moment il va s'arrêter. Est-ce que c'est de se dire ben Ronaldo de son côté est en train peut-être de briller, moi il faut que je brille, je deviens, si je marque encore, je suis un des meilleurs buteurs cette année de la Ligue des Champions. Il y a plus assez de superlatifs, d'adjectifs pour décrire ce qu'est Messi aujourd'hui, parce que là aujourd'hui le Barça sans Messi, c'est-à-dire sur la prestation encore une fois d'hier soir et même les tours précédents, c'est simplement hallucinant, quoi.
Même en championnat,
c'est pareil. Ouais.
Frédéric, est-ce que son moteur aussi, c'est peut-être cette Ligue des Champions, parce que il l'a souvent gagné. Là, il ne la gagne plus depuis 2015. C'est la première fois que le Barça retourne en demi-finale. Et puis, c'est toujours ses Copa América, ses Coupes du Monde qui lui échappent. Est-ce que là, à 31 ans, ou quand même, il a conscience de ça, il se dit, bon, il me faut cette Ligue des Champions.
Bien sûr, c'est le trophée suprême d'un joueur, cette Ligue des Champions et d'un club, d'une institution.
Et mais lui, il en a tellement gagné.
Pas tant que ça, deux.
Trois, je crois.
Deux.
Trois. Non, il en a quatre, puisque en 2006, il était sur le banc.
Exactement.
Hein,
exactement.
Déjà, donc,
exactement.
Il en a quatre.
Il en a quatre.
Ouais, mais c'est. Voilà, et puis c'est surtout que le voisin, il en a gagné trois d'affilée. Donc aujourd'hui, Barcelone
a besoin
vraiment d'aller gagner cette Ligue des Champions. Et Messi est tout simplement exceptionnel, phénoménal, tout ce qu'on veut, parce que sur des matchs, il suffit de le voir jouer, il marche beaucoup, mais quand il a le ballon,
vous marchez aussi.
Moi? Non, c'était impossible.
Non, Marc et Fred, ils marchaient jamais.
Je marchais en sortant du stade.
C'était pas impossible.
Ils couraient, ils marquaient tellement de buts tous les deux. Hein.
Quand on a un génie comme ça sur un terrain,
c'est. Il a un style inimitable, hein, ça c'est
non,
sûr.
Non, c'est inimitable parce que, en fait, C'est pas qu'il marche.
On disait
est...
souvent Ibra marche, mais là on critiquait plutôt et là on
ouais,
admire.
Mais on dit aussi Balotelli par exemple, il marche, mais c'est de la feignantise. Alors que lui, il marche parce que il est malin,
il se fait oublier,
il est derrière les joueurs et après hop, il sort de nulle part et il te fait un coup de génie.
Mais c'est là où on dit à tous les nombreux auditeurs qui nous écoutent en Afrique, qu'ils soient supporters du Real ou du Barça, donc du Real avant avec Cristiano évidemment, on m'aurait compris.
Ah voilà.
Vraiment profitons de ces deux joueurs.
Aussi,
profitons de ces deux joueurs. Allons-y encore pour. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ils sont peut-être au sommet de leur art, ou peut-être que Cristiano un petit peu moins, et encore. Donc profitons-en de ces deux joueurs, parce que dans 3-4 ans, quand ils seront plus là, on sera là, bon sang, aujourd'hui, on n'a que X ou Y.
Mais la seule chose qui me fait plaisir, c'est que depuis 2-3 ans, on dit on en a assez tous les deux, on en a assez. En fait, les deux nous ont bien rappelé, parce que Ronaldo a été très bon hier soir. Ils nous ont rappelé qu'ils sont toujours présents, et pour l'instant, il n'y a personne qui peut aller derrière.
À la mi-temps.
Parce qu'on nous balance, alors des Mbappé, des ceci,
des
cela. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Exactement. Les deux, ils sont au-dessus, ils continueront. Ah, mais à la trentaine, vous verrez, ils vont descendre, ils vont péricliter, les deux. Péricliter? Ah, ben ouais, j'aurais bien aimé.
Hier, à la mi-temps, on avait un doublé de Messi et un but de Cristiano. Ah,
c'est
vrai qu'on se disait, la soirée va être très chaude.
C'est clair.
On va prendre la direction maintenant de la Ligue 1 parce que mais c'est un club qui dispute la Ligue des Champions, n'est-ce pas?
C'est mercredi, c'est leur fête.
Allez, direction l'Atlantique, mais alors là, l'Atlantique bretonne.
Ah, oui. Faut défendre notre Ligue 1 parce qu'elle est de bonne qualité.
Je sens qu'ils vont être très objectifs tout de suite, nos invités.
Marc, toujours objectif avec le PSG.
C'est vrai.
Toujours.
Alors, ce soir ou pas? Le PSG sera-t-il couronné ce soir en terre bretonne, au stade de la Beaujoire? On espère sans doute évidemment que une nouvelle fois, eh bien, les séances sera retardée. Mais Nantes n'est pas Lille. Les Canaries, 15e du championnat, pourraient-ils faire chuter ou douter les Parisiens? Parce que les Parisiens doivent gagner pour être sacrés ce soir champion de France. Coach Vahid Halilhodžić, ne se fait pas d'illusions. Il aura des joueurs vengeurs juste en face.
Ils seront vexés. Ils vont réagir. Il y a le joueur classe mondiale là-bas. Quand je vois qu'est-ce qui est capable un joueur comme Mbappé faire dans un match, c'est un joueur qui peut gagner tout seul un match. Ils vont être vexés, ils vont chercher vraisemblablement, entre guillemets, racheter pour c'est une belle gifle. Ils vont venir là beaucoup, beaucoup plus encore motivés, organisés, volontaire pour gagner, pour faut se méfier, c'est pas n'importe qui.
Se méfier, ce n'est pas n'importe qui, mais ce soir quand même sur la pelouse, il parle de Mbappé, il n'y a finalement pas Mbappé,
ni
d'ailleurs Martin Guèze, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors vous êtes déjà à la Beaujoire, le match commence dans une heure à peine, mais qui sera sur la pelouse du côté du Paris Saint-Germain? Parce qu'on a l'impression que entre les blessés, les absents, les oubliés ou les punis, enfin bon, on se demande qui va jouer pour le PSG.
Eh ben déjà sur la pelouse, on aura du vent, puisqu'alors depuis la mi-journée, qu'est-ce que ça mange? En fait, mes feuilles qui s'envolent dans tous les sens. Mais on a aussi une équipe peu habituelle du Paris Saint-Germain, parce que l'attaque, ce sera Choupo-Moting, Kunku et puis Diaby à gauche. C'est pas un trident qu'on a vu souvent. Enfin, Choupo-Moting, Kunku, on les avait déjà vus face à Strasbourg. C'était pas forcément très bien passé, on s'en souvient tous, de ce match nul de partout, alors que Paris avait déjà l'occasion de remporter le titre. Et puis sinon, on aura une défense à 4 avec Colin Dagba à droite, Kerrer, Kimpembe qui sont reconduits malgré leur prestation très compliquée face à Lille, mais il n'y a pas grand monde d'autres de disponibles. Puis il y a Kurzawa qui sera arrière-gauche. Daniel Alves à droite, Diaby à gauche, Paredes et Draxler dans l'axe, et donc Choupo-Moting en attaque et Buffon dans les buts.
Rassurez-nous, alors les Nantais, eux, ils ont mis les meilleurs quand même face à cette équipe du PSG.
Ils ont mis les meilleurs, mais ils ont quand même mis une belle défense à 5, comme ils ont bien l'habitude, avec Charles Traoré à gauche, Palois, Diego Carlos et Edgarier dans l'axe, et puis Fabio, le jumeau de Raphaël. On a les deux jumeaux ici en Ligue 1, l'un à Lyon, l'autre à Nantes, les deux anciens de Manchester United. Après en attaque, on aura Khalifa Koulibaly et Majid Paris, l'attaque malienne-ghanéenne qui est en train de faire des misères à Kerrer Kimpembe. On a vu que c'était dimanche de faire des misères à cette défense, donc on verra ce soir, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est une ambiance des grands matchs quand on est arrivé. Le public est au rendez-vous, mais on a croisé le responsable presse qui nous a dit d'habitude pour le PSG on fait une zone mixte un petit peu spéciale et tendue, mais là comme il n'y a aucune star qui est venue, c'est comme pour les autres matchs, on va pas dévier d'habitude, donc on n'a pas vraiment un parfum de fête pour l'instant. On attend de voir ce que ça donne sur la pelouse.
Marc, est-ce que cette équipe est partie pour gagner ou juste pour ramener, alors ne pas prendre une valise hein, comme on dit dit, c'est-à-dire ne pas prendre 5 buts comme à Lille, parce que c'est un peu vexant. Et bon, peut-être ramener juste le nul, et puis comme ça, on fêtera le titre dimanche au Parc des Princes.
J'espère de tout cœur que la plupart des joueurs sont là pour gagner. On va n'importe où on va, même si on risque de perdre, il faut gagner.
Et peuvent-ils?
Ah mais j'espère
cette
pour eux.
Enfin,
ils ont quand même un logo sur la poitrine. Ils jouent pas.
Oui, mais c'est pas.
Je suis désolé,
c'est
j'entends
l'équipe
des
B.
Trucs. Ah, c'est l'équipe B. Ils ont perdu contre l'équipe C de Manchester. Donc l'équipe B, c'est peut-être meilleur que l'équipe C de Manchester, peut-être. Donc non. Mais après, ce qui
ça vous surprend cette composition en tout cas?
Bah, ce qui est lunaire, c'est la conf de presse de Thomas Tuchel hier. En fait, si on fait un parallèle, on oublie. Je me dis que c'est l'entraîneur qui joue le maintien, qui va descendre. Non, vous comprenez, c'est très dur. Je m'en sors pas. J'ai pas de joueurs. C'est difficile. Enfin, c'est quand même l'entraîneur qui possède le plus gros budget de Ligue 1 et certains clubs européens. Enfin, c'est le truc, c'est vraiment lunaire de ce qui se passe dans ce club.
Frédéric Piquion, quand il dit on n'amène pas Mbappé, la semaine dernière il nous avait dit qu'il le mettait pas titulaire parce qu'il a besoin de se reposer, parce qu'il joue trop à 20 ans, il joue trop Mbappé.
Ouais. Je sais pas comment on peut le prendre, parce que c'est vrai, on se dit ouais, il est jeune, normalement la récupération devrait être beaucoup plus rapide. Mais je pense qu'en ce moment, je pense pas que ça soit une fatigue physique. Je pense que c'est plus une fatigue mentale. On demande tellement à ce garçon que finalement, même mentalement, et je pense qu'il est un peu je dirais pas au fond du trou, mais qu'il est au plus bas, et on l'a vu sur le match de ce week-end.
Et
même
énervé.
Avant, où il s'énerve, il commence à faire des gestes, quand le ballon il arrive pas, il frappe un petit peu n'importe comment, il était plus le Mbappé qu'on connaît.
On lui demande trop.
Et je pense que sur ces derniers matchs, on lui demande énormément.
Frédéric, je pense à confirmer, quand j'avais 20 ans, il fallait que je joue tout le temps, nuit et jour. J'avais envie de ça.
Et
mon coach m'a jamais dit, à 20 ans, t'as joué 9 matchs, tu vas aller te reposer.
Mais peut-être que c'est plus
ça, je l'ai jamais entendu.
Non, mais c'est les nouvelles générations, c'est comme ça.
Ouais, mais alors, tu peux pas aller au charbon.
Non,
regarde les petits de l'Ajax, ils jouent sur tous les tableaux. On avait vu que la Juve a pu faire tourner ce week-end, eux, ils ont pas fait tourner. Regarde ce qui s'est passé hier soir. Donc, qu'ils arrêtent avec ça.
Mais là, pardon, Marc, mais c'est terrible ce que je veux dire, mais ne comprends pas l'Ajax et le PSG. Là, c'est deux mentalités totalement différentes. Et là encore, les nombreux auditeurs du PSG et supporters du PSG qui nous écoutent sont peut-être dépassés par mes propos, mais c'est un fait. Aujourd'hui, le PSG a une mentalité, c'est terrible ce que je veux dire, de petit. Au final, dans la manière de faire tout au long de cette saison,
dans la préparation, tout ce qui se passe. Voilà.
Ouais, t'as raison. C'est ça qui est navrant aujourd'hui avec le PSG, c'est que vous avez une préparation de petit. Après, quand vous avez évoqué, et Martin l'a évoqué, la composition d'équipe du PSG, pardon, mais Paredes qui va être titulaire peut-être, c'est 45 millions, Kerrer c'est 30, Kimpembe qui est champion du monde.
Bouffon, enfin,
à un moment
dans les buts,
donné,
une pensée pour lui.
Vous avez dépensé ces sommes-là, ben, mettez ces joueurs-là, vous avez voulu mettre ces joueurs-là, c'est des sommes qui sont aberrantes sur des joueurs moyens.
Moyen,
parce que
Kerrer
reste un joueur moyen, Paredes, il était au Zénith. À un moment donné, c'est au final tout ça qu'il faut remettre en cause, et quand Tourelle fait ce genre de conférence de presse, c'est aussi pour mettre le doigt sur Antero Henrique peut-être, et dire qu'au final
c'est une guerre interne.
C'était une erreur de la part d'Antero.
Martin, est-ce qu'il y aura du monde dans ce stade quand même pour venir voir ce PSG bis terre peu importe, mais venir défier quand même la 15e équipe du championnat qui elle aimerait ne pas perdre ce soir?
Ah bon, on l'espère quand même, recevoir le PSG, ça reste toujours un événement, même si c'est mercredi, même si c'est 19h. Là, on voit que les tribunes commencent quand même à bien se remplir, donc on ose espérer que le stade sera plein. En plus, Nantes a un petit honneur à garder, puisque eux, ils ont 8 titres de champion de France. Le PSG, pour l'instant, en a que 7. Donc, si le PSG vient gagner ici, il les égalerait. Donc, il y a peut-être une petite pique de fierté aussi.
Puis ils ont fait tomber Lyon. De belle façon.
Ils ont déjà fait tomber Lyon il y a quelques jours maintenant. Pourquoi pas Paris?
En plus, Marc Libra. Marc Libra est enchanté à cette perspective.
Par le match, je vais vite rentrer à la maison pour voir le match. Vous allez voir.
Bon match à vous, malgré le vent, Martin Guez. Et on vous retrouvera tout à l'heure dans Radio Foot International. Alors, pour vous, messieurs, c'est ce soir ou pas le titre quand même?
Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Allez. C'est avec le doute, avec tout ce qui se passe, il y aura un bon match nul, un bon 0-0.
Ah oui, carrément.
Oh là. Je vais peut-être vous surprendre. Moi, je pense qu'il y aura victoire ce soir. Justement, il y a ces joueurs-là qui. C'est un truc très bête. Nkunku et Choupo-Moting vont vouloir montrer qu'ils savent jouer de nouveau ensemble, etc. Donc, ça va gagner, ça va être champion aujourd'hui. Et ils le fêteront bien comme il faut contre Monaco.
En recevant l'Hexagone. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé avec tant d'humour cette émission aujourd'hui. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno à la réalisation avec Victor Hull. Et on vous dit à tout à l'heure.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.